Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre, Latraverse, Dumont.
Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel, Mario, alors qu'on se rend compte que la crise en santé est immense et ce sera très dur à surmonter, Christian Dubé, le ministre de la Santé aujourd'hui, qui dit qui s'engage à ce qu'il n'y ait pas de bris de service. C'est quand même un engagement qui est pas fait, est-ce que je me trompe?
Ben non, c'est pas fait parce que pour que je veux dire là, on est non seulement il manque 4000 infirmières dans le réseau à l'heure où on se parle. Mais à partir de demain, 5h, il va être trop tard pour qu'il y en ait 20 000 membres des personnels de la santé de plus qui se fassent vacciner. Donc, ça va être plus que 4 000 là, rendus au 15 octobre qui vont manquer. Moi, je dois t'avouer, dans ce débat-là, je suis surprise qu'au Québec, on n'ait pas interpellé les syndicats. Je m'explique, on a fait une commission parlementaire où on a laissé les syndicats donner une excuse à leurs membres pour ne pas se faire vacciner. En disant, si on a des syndiqués qui sont non vaccinés et qui veulent faire un grief, nous serons obligés de les défendre. C'est quoi le message? Et faites-vous pas vacciner, on va aller à la guerre pour vous. Mais le président du plus gros syndicat au Canada, qui s'appelle Jerry Diaz, président de Unifor, est sorti la semaine dernière. Et c'est quand même extraordinaire le discours qu'il tient. Où il dit qu'il serait temps que les autres leaders syndicaux soient plus honnêtes avec leurs membres. Que chez Unifor, ils ont vérifié et que les avocats du syndicat leur disent qu'à moins d'avoir une exemption médicale, ce serait légitime pour les employeurs au Canada d'exiger la vaccination obligatoire. Il dit « Je ne vais pas aller dire à mes membres, si vous ne voulez pas le vaccin, tant pis, on va se battre pour vous, parce que je sais que si je me bats pour eux, je vais perdre. » Et il ajoute « En plus, sérieusement, d'être solidaire de la vaccination obligatoire, c'est une façon d'honorer mes membres qui sont morts de la COVID en soignant des gens. »
Parce que, Emmanuel, les leaders syndicaux, bon, il y a l'aspect de négociation, le travail de base, de défendre leurs membres. Mais lorsqu'ils s'engagent politiquement, prennent des positions sur toutes sortes d'enjeux qui ne sont pas directement reliés à leurs membres, puis qu'on les questionne, de dire « Ouais, là, vous étirez pas un petit peu votre mandat, tu sais. » Ils vont toujours dire on s'intéresse à l'intérêt collectif là. Oui, à l'intérêt de nos membres là, mais aussi l'intérêt collectif là, tu sais, des politiques qui sont appliquées par les gouvernements, les choses qui se passent, etc. Et là, voilà un exemple, si tu es une organisation qui vise l'intérêt collectif, t'es directement interpellé là, directement interpellé parce que c'est de ça dont il est question. Et je comprends là que c'est le fameux devoir de représentation inclus dans la loi le code du travail pour tous les cotisants d'un syndicat, t'as un devoir de les représenter. Mais il reste que jusqu'où va le devoir de les représenter lorsqu'ils sont une menace pour la santé des autres, lorsqu'ils sont une menace... Tu sais, quand une infirmière travaille dans un département où elle fait de la dialyse, qu'elle va travailler avec les patients les plus fragiles, puis qu'elle réclame son droit de peut-être transporter la COVID et peut-être infecter les autres, est-ce que c'est un droit qui doit être défendu bec et ongle? Pas certain.
Ben c'est exactement ce que dit le président de Unifor. Il dit, très bien, on va les porter, les griefs, mais il faudrait peut-être dire à nos membres qu'on va les perdre. Alors, c'est comme si lui remet dans l'avant-plan l'idée que les syndicats ont une obligation sociale, mais il amène moi, je trouve que c'est très, très intéressant sa sortie la semaine dernière parce que il y a toute la vigueur avec laquelle les syndicats vont porter ce dossier-là. Et ce que lui dit finalement à tous les autres leaders syndicaux au Canada, c'est arrêtez de donner une excuse à vos membres pour pas se faire vacciner. Et je serais curieuse de voir la réaction des grandes centrales syndicales au Québec à cette sortie-là. C'est sûr que ça a beaucoup dérangé en Ontario aussi. Là, il fait pas l'unanimité. Mais il est quand même le président du plus grand syndicat au Canada, là.
Est-ce que Christian Dubé, qui a été ferme aujourd'hui, allait dire 15 octobre, c'est sûr, tout le monde est suspendu, est-ce que ça va tenir, ça, dans quelques semaines, si on voit le mur arriver, puis tu dis, OK, ben là, l'histoire des bris de service, là, on pourra pas en éviter, là. Est-ce qu'il devra repousser un peu, ou donner un petit peu de jeu aux infirmières et aux infirmiers?
Mais non, mais ce qui va arriver, c'est qu'on va se mettre à refaire du blessage, là. Je veux dire, tu remets... Comment tu évites le bris de service? Tu l'évites, le bris de service, en octobre 2021, de la même façon que tu évitais le bris de service en avril 2020, ou en octobre 2020, ou en décembre 2020. C'est que tu annules des chirurgies, tu annules des rendez-vous, tu annules des tests, puis tu redéploies ton monde là où tu en as besoin. Alors, oui, il y a le moyen de le faire, mais le problème, c'est que le coût pour la santé des Québécois en général va être monumental. Et donc, pour éviter des bris de service, on va payer le même prix que quand il y avait 5000 personnes, 2000 personnes hospitalisées.
Mais moi, j'essaie quand même de comprendre, j'élargis un peu la stratégie de communication du gouvernement cette semaine. Parce que je me reporte là mardi, c'est la rentrée parlementaire, première période des questions, là, les députés se revoient pour la première fois au Salon Bleu à 14h. 15 minutes avant, Christian Dubé convoque la presse, passe... Je pensais qu'il y avait une petite annonce à faire, une mise au point, quelque chose. Non, fait un point de presse quand même assez sombre. Et là, lance la discussion sur le fait que ça va vraiment très, très mal, qu'on manque vraiment beaucoup, beaucoup d'infirmières, que des bris de service vont survivre, qu'on planifie ni plus ni moins des bris de service pour pas vivre de façon impromptue des bris de service qui sont pas planifiés, parce qu'on n'a plus le personnel. On n'a plus le personnel qu'il faut. Et là, après ça, là, sur le coup, ça avait l'air très fataliste. Après ça, le gouvernement a dit, ben là, d'ici une semaine, je vais arriver avec un plan. Mais moi, je sais plus c'est quoi le but du gouvernement. Est-ce que c'est de préparer les esprits à ce qu'il va y avoir tout l'automne des bris de service, des réductions de service, des départements fermés? Est-ce que c'est de créer une crise, une espèce de sentiment d'urgence pour que justement que des infirmières viennent donner leur nom, sentent l'appel de la vocation, dire, faut aller aider? Est-ce que j'ai pas trop compris quel était le but de la communication du gouvernement, ou le but c'est carrément de détourner l'attention d'autres choses, mais je saurais pas quoi, de mettre une pression sur ceux qui veulent aller se faire vacciner, parce que il y a eu un côté dramatique dans la façon de communiquer tout ça cette semaine.
Oui, je pense qu'il y a une tentative là-dedans. Moi, dans mon esprit, la première chose que je vois, c'est une tentative de contrôler le message. C'est mieux de toi mettre de l'avant qu'il y a des urgences qui vont fermer et que tu en es conscient et que tu travailles sur un plan, que de te lever en chambre à chaque jour puis de te faire de donner la liste de la nouvelle urgence qui a fermé.
Puis c'est l'opposition qui te l'annonce parce qu'ils viennent de l'apprendre là, 15 minutes avant.
Tu peux pas avoir l'air de Daniel McCann. Là.
Mais parlant de Daniel McCann, Emmanuel, Christian Dubé, lorsqu'il l'a remplacé, est devenu un peu des chouchous des Québécois. Là. Il était très direct, performant, crédible. Là, ce dossier-là, de dire, OK, je vous garantis ou je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de bris de service, on a une montagne là, à surmonter dans le milieu de la santé. Est-ce que ça le fragilise sur carrément son avenir?
Ben, ce qui le fragilise, c'est cette crise dont plusieurs te diraient qu'elle était annoncée. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est sûr que la COVID a exacerbé le problème, mais le problème, il était là avant la COVID. Et c'est un gouvernement qui va devoir assumer, lui, de ne pas avoir poursuivi les projets pilotes et les efforts du gouvernement Couillard à l'époque, des fameux projets ratios, là, tu sais, où donc on s'assurait qu'il y avait tant d'infirmières. Alors, comment on a mis cette idée-là de côté? Et ça a poursuivi.
Mais eux, ils disent qu'ils l'ont pas mis de côté. Ouais, ils disent qu'ils l'ont intégré dans la négociation. Ils disent qu'ils ont intégré les projets ratios dans la négociation, réussi avec les infirmières.
Oui, mais c'est 2 ans plus tard, là. Ouais. Ils sont au pouvoir depuis un. Mais moi, je vais dire, l'aveu qui m'a surpris aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle le ministre des Finances s'est levé et a dit, écoutez, on va être là, chèque en blanc. T'sais. Peu importe le coût, là, go mon Léo. Ce qui est la chose à faire, tu me diras, mais moi, je me dis, mais pourquoi ils ont été tellement stricts sur les cordons de la bourse, sur la question des salaires avec les infirmières? Pourquoi est-ce que ça a été ça si difficile, alors que 6-4 mois plus tard, on est prêt à payer plus? Et je me demande s'il n'y a pas comme un aveu de... d'échec là-dedans dans le gouvernement. T'sais, moi, je comprends là, que les bénéfices de cette convention collective-là, ça va prendre un an et demi, 2 ans à les voir. Là. C'est compliqué, mettre en place, changer la façon de travailler, etc., etc. Mais le train qui s'en venait, on le voyait venir. Eux auraient dû le voir venir. Et là, à la dernière minute, on va essayer de le freiner avec de l'argent, tu sais. Et je pense que c'est là-dessus que le gouvernement est vulnérable. C'est d'avoir, c'est imaginer qu'à partir du moment où on signe un document, pouf, les problèmes s'en iraient, là, tu sais. Mmh.
Parlons de l'Alberta, Mario Emmanuel. Bon, hier, point de presse assez dramatique. On comprend qu'en Alberta, on est passé il y a quelques mois de, il n'y a plus de mesures, c'est rendu au niveau endémique. On va gérer ça, la COVID. On est sorti de la crise. On évalue là d'implanter le protocole d'urgence carrément de triage de patients parce qu'on aura peut-être plus de lits dans quelques semaines. On va tout faire pour l'éviter, mais on est à travailler quand même là-dessus. Ça a ramené quand même le dossier dans la campagne fédérale. Mario, de pouvoir, parce que Justin Trudeau aujourd'hui et puis tirer sur les conservateurs et attirant ouais, sur Erin O'Toole au passage. Est-ce que c'est une, une bonne journée pour lui?
Oui, ça marche pour Justin Trudeau, même si un côté, quand il parle de la façon conservatrice de gérer la crise, je veux dire, entre des premiers ministres dans l'Atlantique, Doug Ford, les deux de l'Ouest, ils n'ont pas tous géré ça de la même façon. Donc, il n'existe pas une telle chose qu'une approche conservatrice. Mais ça ramène, bon, tout le petit... qui aurait dû être un tout petit problème que monsieur, à mon avis, O'Toole aurait dû régler beaucoup plus tôt, là, des candidats pas vaccinés. Ça soulève tout ça que lui, Justin Trudeau, il a l'approche ferme. Là, Et donc, l'exemple de l'Alberta, ce que ça dit, c'est que l'approche pas tout à fait assez ferme, ou l'approche d'espérer que ça va bien aller avec moins de mesures en matière de COVID, ben ça marche pas. Et donc ça, c'est des points. Et moi, ce que je trouve, ce qui est d'une certaine façon plus le problème d'Erin O'Toole que le succès de Justin Trudeau. Erin O'Toole est attaqué de ce côté-là, donc du côté pas en faire assez pour la COVID. Mais il est aussi attaqué à l'autre bout. Maxime Bernier lui dit, ben regardez, c'est ça les conservateurs, sont virés fous avec la COVID, ils nous briment de nos libertés.
Même
Jason Kenney, c'est un despote comme les autres. La Saskatchewan, Scott Moose, c'est toute la gang à O'Toole, c'est le confinement, c'est la perte de nos droits, de nos libertés. Jamais, écoute, c'est incroyable. Maxime Bernier a parlé aujourd'hui, jamais parlé de soins intensifs, jamais prononcé le mot soins intensifs, alors que c'est le cœur de toute l'affaire. Comment tu peux parler d'un sujet sans parler de son cœur? Mais Maxime Bernier a la vie facile, là. Il veut monter de 5 à 6 %, donc il est pas à l'étape de sauver des vies, lui, là. Il est à l'étape de faire du blabla pour aller chercher des votes de gens qui ont une vision assez partielle d'affaires. Donc, M. O'Toole, il goûte des deux bords aujourd'hui, là.
Oui, puis M. Bernier est en voie de donner deux comtés au Parti libéral en Alberta, là. C'est parce que c'est ça, là, c'est le problème purement politique, là. Plus M. Bernier gueule pour rallier cette frange anti-mesures sanitaires qui est très présente en Alberta, c'est la raison pour laquelle M. Kenney a tellement lésiné et a tellement hésité. C'est pour satisfaire cette tranche électorale. Plus M. Bernier les attire, plus ça divise le vote de droite, et plus il y a des chances que les libéraux se faufilent dans un, deux, peut-être même trois, disent certains, comtés urbains en Alberta. Moi, ce que j'ai trouvé très habile de M. Trudeau, c'est que son message passe sur cet enjeu-là, sans même qu'il mentionne le nom de Erin O'Toole. Parce que Erin O'Toole, ce qu'on a tous compris, c'est qu'il veut épargner la chèvre et le chou sur les vaccins. Et là, M. Trudeau, il dit, regardez ce qui arrive en Alberta, c'est la preuve que les demi-mesures, ça ne fonctionne pas. Pouf, le message est rentré. Puis très habile aussi, il dit, les Canadiens comprennent maintenant l'importance d'un gouvernement qui va faire les bonnes choses. On est comme rendu là dans cette élection. C'est comme dire au monde, je sais que vous êtes fâchés contre moi, je sais que vous êtes tannés de m'entendre, je sais que vous ne m'aimez pas, je sais que j'ai un mauvais programme, mais au moins, tu sais, je ne vais pas mettre le feu. Puis M. O'Toole, il se dépatouillait aujourd'hui. C'était effrayant. M. Kenney a même dit hier en point de presse que le choix de se faire vacciner n'est pas un choix personnel. M. O'Toole, tu réponds pas à quoi
Et l'affaire ultime sur l'Alberta, pour conclure, c'est clair que, à mon avis, l'entourage d'Erin O'Toole a dû demander à Jason Kenney, reporte ça à mardi ou mercredi prochain, là. Laisse passer l'élection. Et il faut vraiment que la situation soit critique, dramatique, les soins intensifs sur le bord de péter aux frettes, des vies humaines qui se perdent, pour que Jason Kenney se dise, non, moi, je peux pas, même 4 jours, je peux plus attendre. Je dois imposer toutes ces nouvelles mesures. Merci, Emmanuel.
Très bien, au revoir.